Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et Alfred, on commence avec le coup d'éclat du jour.
Oui, lundi, le célèbre tableau L'origine du monde de Gustave Courbet a été recouvert de peinture rouge, un tag où l'on pouvait lire les mots MeToo inscrits dessus. Alors juste pour préciser, c'est la vitre qui protège le tableau qui a été ciblé, pas le tableau en lui-même. Quatre autres œuvres ont été ciblées dans ce centre Pompidou-Metz. Deux femmes ont été interpellées. Une troisième a pris la fuite avant de revendiquer ses actions sur les réseaux sociaux. Très remonté, le maire de Metz, François Grosdidier, a vivement réagi, dénonçant, je cite, un attentat contre la culture produit par des fanatiques féministes.
Il parle même de talibans, le maire de Metz, des méthodes de talibans, de sauvages, d'attentats, de terroristes.
Bah parce qu'il y a une revendication en plus derrière, effectivement.
Anne-Sophie, est-ce que tu partages cette colère du maire de Metz?
Alors non, pour savoir ce qui se passe en Afghanistan, je pense qu'il ne faut pas utiliser le terme taliban là pour ça. Et pour savoir ce que c'est que le terrorisme, il ne faut pas utiliser le terme terrorisme pour ça. Moi, je suis un peu... Franchement, j'y connais rien à l'art. Je suis un peu hermétique à l'art moderne. Donc voilà. Mais si on regarde, c'est une activité qui s'adresse au sens, aux émotions.
On ne sort pas dans la catégorie art moderne.
Non, mais l'action a été revendiquée comme une action d'art. Oui. Et l'art, c'est une activité qui se revendique comme devant faire réagir les sens et les émotions. À ce titre-là, j'ai l'impression qu'elles ont réussi, puisque ça met des gens en colère, ça crée des émotions, ça laisse pas indifférent, ça crée un débat, donc voilà. Et si on se colle à la définition de l'art, elles ont réussi. Par ailleurs, heureusement, les tableaux n'ont pas été abîmés, c'est sur une vitre. Donc voilà, ensuite, moi, je comprends pas forcément la démarche, mais je peux pas nier que si l'idée, c'est de susciter une réaction, ça marche.
Thierry? Moi, j'ai le sentiment que la culture, globalement, est plutôt un... Parce que c'était, au départ, pour protester contre le patriarcat. Okay. Je pense que s'il y a un domaine où la culture est déjà pas mal en avance, plutôt en progrès sur cette thématique-là que sont la lutte contre le patriarcat ou la promotion d'un certain féminisme, c'est bien la culture. Le cinéma, les expos, les choses comme ça. Premier point. Deuxième point, tu dis ça n'abîme pas les œuvres. Je suis d'accord avec toi, sauf que dans les précédentes actions,
récemment,
ça
ils
a
l'ont
abîmé
fait sur des
les
vrais
cadres. Et les cadres, quelquefois, sont... pas aussi précieux que la toile, mais en tout cas ils sont
non non ça a même été fait sur des vraies toiles hein, maintenant
oui,
ils en sont là, les extrémistes vont
il y a aussi les cadres qui sont quelquefois très abîmés, notamment au musée d'Orsay il y a des cadres qui ça va coûter beaucoup d'argent de les restaurer et je ne suis pas sûr que ça apporte quelque chose. Et dernier point, si c'est une performance artistique, j'avoue j'ai du mal à la comprendre.
Bah, là, c'est une artiste, non, qui a fait, qui le revendique comme une performance, si j'ai bien compris. C'est pas du tout
Déborah, c'est une artiste. Oui,
performeuse,
connue pour ça. Connue pour ses actions.
Moi, je ne connaissais pas du tout, mais en tout cas, Daniel.
Moi, je suis pour des sanctions lourdes, parce que pour ceux qui font ça, parce que ça, c'était une dégradation, et surtout le message, de toute façon, il est. J'entends que ça suscite une réaction. Le problème, c'est que ça suscite une réaction qui est négative. Donc, si c'est pour défendre une cause, en fait, je trouve que la cause en prend plein la gueule. C'est négatif pour la cause. C'est négatif pour la cause. En l'occurrence, celle-là, c'était MeToo. Parfois, ce sont des écolos. Parfois, toute une sorte de cause maintenant viennent à être défendues dans les musées. Bon, ok, vecteur de communication, le musée, l'œuvre d'art pour dénoncer. En gros, ça va choquer le public. Mais le problème, c'est que, ouais, certainement que ça choque le public. Mais la réaction que ça procure, c'est que on en veut aux gens qui font ça. Et on en veut indirectement à la cause. Ce qui fait que la cause, plutôt que d'être grandie, ben, elle devient toute petite et on dit, ah, ils nous font chier avec leur cause. Alors que ça devrait pas être le but. Ça devrait être le contraire. Ou alors, ce sont uniquement des extrémistes, ce que je crois. Ce sont des gens qui, de toute façon, ne veulent pas ouvrir le débat, mais te soumettre à leurs opinions par la violence de leurs actes. Ce sont souvent des gens qui sont proches de mouvements révolutionnaires, qui, de toute façon, ne veulent pas le dialogue, mais veulent l'écrasement de l'autre. Souvent, ces activistes-là sont comme ça. Et donc, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'acte positif dans ce qu'ils font. Ils ne veulent pas t'éveiller à la cause, mais la cause, ils veulent juste la claquer à la gueule. Et le résultat, c'est que la réaction... que ça engendre, c'est un rejet de cette cause. Donc je trouve que c'est négatif et je crois qu'en plus, ils n'en ont rien à cirer que ce soit négatif.
Le départ du jour, Alphonse.
Oui, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, va être remplacé après les Jeux Olympiques, annonce faite par le gouvernement ce midi. Son mandat arrivait à échéance lundi. Le gouvernement a en quelque sorte décidé de couper la poire en deux. Jean-Pierre Farandou aurait pu être reconduit jusqu'à l'été 2025 où il aurait atteint la limite d'âge, à savoir 68 ans. Mais le gouvernement n'ira pas plus loin que la fin des Jeux. Une décision qui interroge parce que Jean-Pierre Farandou a mené ces dernières semaines des négociations très favorables aux cheminots, avec les cheminots, pour éviter des grèves pendant les Jeux, des négociations qui ont vraisemblablement agacé le gouvernement.
On n'a pas voulu brusquer les cheminots avant les JO. Par contre, on n'est pas très content de ce qu'ils se sont vus accorder par leur PDG. Thierry, est-ce que tu crois que, clairement, là, c'est le PDG de la SNCF paye sa politique sociale ?
Je suis pas dans le secret de la décision gouvernementale, mais effectivement, ça sent un petit peu le retour de bâton. Après, moi, je suis toujours fasciné par ces gens qui, au-delà de 65 ans, s'accrochent à leur poste, plutôt que de partir à prendre une retraite bien méritée. Pourquoi s'accrocher jusqu'à 68 ans? Ça veut dire que le poste est très intéressant particulièrement gratifiant. J'ai envie de dire place aux jeunes. 65 ans, c'est bien déjà. Voilà, il a fait plein de choses.
Surtout avant de partir, il a régalé tout le monde.
En plus, donc voilà, je comprends pas cette volonté de s'accrocher à tout prix jusqu'à 68 ans, un poste où d'autres peuvent montrer leur talent.
Anne-Sophie.
Alors moi je rejoins assez le fait qu'à un moment il faut savoir s'arrêter de travailler. On s'est assez battu pour la retraite plus tôt. Par ailleurs,
on a l'impression qu'il paye un petit peu les cadeaux qu'il a fait.
Oui, mais alors c'est vrai que n'étant pas, je suis pas dans le secret de la décision, mais il y aurait eu des grèves et un gros mouvement au moment des JO. Il aurait sans doute payé quelque chose aussi. Donc je pense que de toute façon c'était assez compliqué.
Moi, je pense qu'il est sanctionné, puisque de toute façon, c'est ce qu'on a entendu de la bouche du Premier ministre et d'autres ministres, comme quoi on lui en voulait d'avoir absolument tout cédé. Et d'ailleurs, dans l'opinion, l'idée qui a été répandue et qu'on a le plus entendue, c'est celle comme quoi ce PDG a cédé à la pression des cheminots et qu'il leur a fait beaucoup trop de cadeaux. Le gouvernement étant sensible à ce qui se dit dans l'opinion, résultat, c'est une sanction. Au revoir, monsieur.
Bon, après, ça dépend de l'opinion, c'est comme tout.
Non, en général, ce qui s'est dit quand même autour de ça, c'est qu'il a fait beaucoup trop de cadeaux.
Alfred, la découverte du jour, est-ce vraiment une découverte ?
Alors, les prisons françaises sont de vraies passoires où la drogue circule librement. C'est l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives qui nous l'apprend dans une enquête. Un quart des détenus fument par exemple du cannabis tous les jours. La consommation d'alcool est aussi quotidienne pour 16% d'entre eux. Des produits interdits qui sont souvent livrés par des visiteurs au parloir, parfois aussi livrés par drone. Plus rarement, c'est même le personnel des établissements pénitentiaires comme les surveillants ou les cuisiniers qui font rentrer ces produits dans les cellules.
Daniel, est-ce que nos prisons sont devenues des zones de non-droit ?
Bah, de toute façon, ils sont tellement débordés, tellement entassés, qu'au bout d'un moment, t'achètes la paix, quoi. Tu laisses faire. Tu laisses faire parce que soit on n'est plus capable de surveiller, on n'est plus capable de gérer le problème. Donc tu achètes. Tu achètes la paix, dis bon, allez-y, fumez, faites ce que vous voulez. De toute façon, on n'est plus en mesure de contrôler quoi que ce soit. Voilà comment je le vois, moi, le truc.
Et on continue comme ça ?
Et tu vas continuer comment ?
Hier, il y a eu des propositions faites par les LR, justement pour la construction nouvelle de places de prison, 10 000, 100 000, jusqu'à 100 000.
On l'a répété 150 fois dans cette émission. À chaque fois, on dit on peut pas le faire. Eh ben, si tu peux pas le faire, alors les prisons vont encore plus être des zones de non-droit. Voilà.
Anne-Sophie.
Bah oui, clairement, on a une surpopulation carcérale qui est gravissime et régulièrement dénoncée. Il y a un problème aussi d'activité des détenus. Et donc, vaut mieux qu'ils fument un peu et qu'ils soient calmes. Voilà. Mais c'est catastrophique parce qu'en fait, en termes de réinsertion, si on a des personnes qui sortent avec encore plus de dépendance, c'est compliqué.
Voire ensuite, même qui découvrent la dépendance en prison. Hein.
Bien sûr, voilà, et ensuite, sur la question de l'emprisonnement en France, il faudrait quand même se poser des questions. En Europe, on est à contre-courant d'enfermer de plus en plus. Donc, à un moment, il faut aussi se poser la question de notre politique par rapport à la délinquance. Et est-ce que vraiment on est en train de se mettre en sécurité à enfermer des gens dans des prisons surpeuplées où ils auront accès à des drogues ?
C'est sûr que dans le contexte actuel avec tout ce qui se passe, si en plus on dit qu'on va moins enfermé vu l'application des peines, alors là, c'est sûr que ça va faire fureur.
Moi, je suis en total désaccord. Pour le coup, je pense qu'il faut effectivement plutôt favoriser la prison pour des périodes courtes et que toutes les peines soient réellement
appliquée.
Réellement.
Eh oui.
Le problème, c'est qu'on a un parc pénitentiaire qui est dans un état lamentable, qui sont une passoire, où effectivement on achète la paix sociale, comme l'a dit Daniel, avec les joints et avec les téléphones, parce que c'est aussi le problème des téléphones portables en prison, et qu'aujourd'hui, on gère plus une situation pour la
explosion, tout simplement.
Et c'est ça le problème. Donc, construire des prisons, faire effectuer des peines courtes qui font réfléchir plutôt que de dispenser des peines en dessous de un an, je pense que... Et on le fait parce qu'on n'est pas capable de faire autrement, puisque notre parc pénitentiaire n'est pas à la hauteur.
Et parce qu'on n'investit pas non plus dans toutes les alternatives à la détention. C'est une vraie difficulté. Et que par ailleurs, tous les groupes politiques qui prônent plus de sévérité...
Puisque toutes les peines de moins d'un an ne se font pas.
Et tous les groupes politiques qui prônent plus de sévérité veulent aussi des peines planchers, ce qui bloque également la condamnation.
Le fait de faire des peines courtes n'est pas un problème de sévérité. C'est un problème de faire en sorte que quelqu'un qui fait une petite infraction à une petite peine, la purge est réfléchie, plutôt que d'attendre qu'il risque plus d'un an de prison pour vraiment, vraiment faire de la prison.
Alors, c'est un très long débat qu'on lancerait, mais pour moi, la question, c'est l'efficacité. Si une peine courte, ça veut dire que la personne ensuite revient dans le droit chemin, pourquoi pas?
Les pays du Nord l'expérimentent avec beaucoup de succès.
Oui, mais la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de cas où il y a besoin d'un accompagnement éducatif et où il n'y a pas les moyens et beaucoup plus qu'une semaine de prison.
L'un n'empêche pas l'autre.
L'interrogation du jour.
Oui, que faire des petites maternités en France? C'est la question que pose la Cour des comptes dans un rapport publié hier. Dans un contexte où la natalité baisse dans notre pays, le maintien des maternités avec moins de 300 accouchements par an est sur la sellette. Pour la Cour des comptes, ces petites maternités coûtent cher et posent un problème de sécurité, puisque les sages considèrent qu'avec aussi peu de naissances dans ces structures, le personnel soignant perd en fait progressivement ses compétences en ne répétant pas assez les gestes, mettant ainsi en danger la santé des nourrissons et des mamans.
Thierry Moreau, ce n'est pas très populaire que de dire ça, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux fermer les petites maternités en France?
Alors le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que moins il y a d'accouchements dans une petite maternité, moins on va avoir tendance à y aller, et donc plus il y a un risque élevé donc d'accidents ou de problèmes, et donc plus on a tendance à les fermer. La question, c'est de trouver le bon curseur pour que quelqu'un qui a besoin d'accoucher, une femme qui a besoin d'accoucher, ait la possibilité de le faire à une distance raisonnable, et c'est dans ce raisonnable que réside toute la problématique, en sécurité, pas trop loin de chez elle, et dans de bonnes conditions. Ça, c'est un problème qui est pour le coup qui relève de la politique sanitaire. On a peut-être pousser le curseur un peu trop loin dans un sens, en concentrant dans d'énormes structures, parfois loin des gens, et au détriment des toutes petites structures,
Thierry,
qui, pour le coup, étaient moins safe.
Il n'en reste pas moins que moi, j'entends, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais j'entends ce que dit la Cour des comptes, effectivement, ces maternités-là, est-ce qu'il faut les laisser ouvertes?
Non, mais elles te parlent de cas par cas.
Elles sont désertées.
Pas forcément.
Elle a parlé de cas par cas, la Cour des comptes. Ouais, je trouve que c'est une bonne réflexion.
Voilà. Bah oui. Anne-Sophie.
Bah, moi, je suis un peu inquiète parce que aujourd'hui, il y a quand même un gros sujet sur la désertification médicale, et donc fermer des centres de soins éparpillés sur le territoire, c'est problématique parce qu'effectivement, on a des grosses concentrations.
C'est problématique aussi.
Alors, c'est justement d'où l'idée du cas par cas et donc de regarder ce qu'on peut faire. Ouais. Moi, je me mets à la place des femmes enceintes. C'est quand même extrêmement compliqué de se dire qu'on est très loin de la maternité, que ça commence à être le stress à partir du 8e mois parce qu'on sait que le trajet il est trop long, et même pour des visites de contrôle, etc. Donc, en fait, il faut absolument je sens le truc où on va fermer des petites maternités et ensuite ça va créer des drames.
Là où le cas par cas est compliqué, c'est que souvent tu as des pressions politiques parce que l'élu local, le député local va évidemment interférer auprès du ministère pour ne pas fermer la maternité qu'il a dans sa circonscription, etc. Donc il y a aussi des enjeux politiques lourds, et donc il faut faire attention à cet équilibre-là aussi.
Allez, on termine avec la distinction du jour.
Elle est à mettre au crédit du basketteur français Victor Wembanyama, qui vient d'être élu rookie de l'année en NBA, le championnat de basket américain. Un prix qui récompense le meilleur joueur débutant. Wemby, comme il est surnommé, a joué sa première saison en NBA dans l'équipe des San Antonio Spurs, et il a crevé l'écran, multipliant les points, les contres. Bref, il était partout sur le terrain, de bon augure avant les Jeux de Paris, où les Bleus de basket sont candidats à une médaille olympique.
J'ai regardé Sophie qui m'a fait de grands yeux, j'ai regardé Thierry qui m'a fait de grands yeux, ce ne sont pas visiblement des spécialistes de basket.
Daniel, apparemment c'est un génie.
Tu t'intéresses au basket?
Ouais, mais de toute façon, effectivement, ce qu'il a fait cette année, c'est assez extraordinaire. Parce qu'il y avait beaucoup de doutes.
Non, beaucoup, non. Beaucoup de pression.
Alors, il y avait. Voilà, beaucoup d'attentes. Exactement. J'ai dit une bêtise. Il y avait une attente démesurée l'été dernier. Et ce qu'on entendait dans la bouche des spécialistes, c'est l'optimisme, ok, mais restez calme. La NBA, c'est un autre monde. Le basket américain, c'est un autre monde.
On nous disait que c'était un extraterrestre, qu'il allait tout pulvériser.
Que ça va, il faut pas aller trop vite. Il faut lui laisser le temps de grandir, non pas par la taille, mais par le corps.
Et il est au rendez-vous.
De prendre du muscle, de se faire au contact qu'il y a dans ce championnat. Bref, il allait changer de monde et il fallait pas non plus trop s'emballer, surtout sur la première année. Aussi, hein. Et résultat, il termine la première année et tout le monde est emballé. Donc ça veut dire qu'il est à la hauteur des espérances placées en lui l'été dernier quand il est parti. Et maintenant, parce que c'est aussi ça qui se passe autour des surdoués. C'est ce qui a été évoqué, l'attente autour des JO maintenant, parce qu'on s'attend à ce qu'il emmène derrière lui toute l'équipe de France pour décrocher une belle médaille au moment des JO en France. Donc il apprend à être constamment au cœur de l'attente. Voilà, c'est le lot des génies, c'est d'être tout le temps, on veut plus, tu dois nous faire gagner, c'est toi la star, parce que ça va devenir une des stars du sport français. Donc on attend une médaille autour de lui et autour des bleus du basket.
Et on l'espère, et ce sera bien sûr à suivre sur RMC et sur RMC Story tout au long de cet été.